Bonjour tout le monde, bienvenue au Super Athlétique édition du 26 mars 2021. Nous sommes vendredi et c'est la deuxième fois de la journée que je dis cette chose-là. Mais on a complètement effacé la première moitié du show parce qu'il y a une nouvelle qui vient de nous arriver en toute dernière heure. Arpin Basu, bonjour.
Alors, salut Marc-Antoine. Bon, rebonjour, on devrait dire. Rebonjour, ouais.
Rebonjour. Donc, écoute, on se posait la question dans notre première version du podcast, à savoir s'il fallait vraiment croire Marc Bergevin à l'effet que, et parce qu'il nous est revenu jeudi en commentant la situation de la COVID au sein de l'organisation en disant je n'ai pas d'argent sous le plafond salarial, je ne suis pas en position de faire des échanges, même des échanges. Des soft trades, des échanges mineurs, je ne peux pas faire ça. Il était catégorique et boum, 24 heures plus tard, il nous arrive avec Eric Staal. Ta réaction à chaud, Arpin?
Ben, ma réaction, c'est que c'est bravo. Dans le fond, bravo que tout ce que tu nous disais était faux. Mais honnêtement, sincèrement, bravo parce que ça n'avait pas de sens que Marc Bergevin allait permettre une situation précaire, salariale précaire, mais pas quelque chose qui l'empêchait de faire quelque chose qui est rendu en évidence vendredi. Mais ça aurait été dommage qu'il dit que bon, ben, ça va être trop difficile, on n'a pas d'espace salarial. Moi, j'aime mon équipe, puis on laisse ça comme ça parce que un gars comme Eric Staal, ça rend la ligne de centre du Canadien très intéressant. C'est tu peux descendre Jake Evans à Laval, lui laisser jouer beaucoup là-bas. Il jouait pas beaucoup avec Montréal, puis il jouait pas très bien. Alors là, tout d'un coup, t'as Eric Staal et Corey Perry sur ton quatrième trio, ce qui, en 2012, ça serait vraiment génial, mais même en 2021, c'est quand même un bon quatrième trio, même si t'as beaucoup de millage sur ces jambes-là. Et après ça, t'as un Paul Byron ou un Arthur Lehkonen que tu peux ajouter à ce trio-là. Je ne sais pas exactement ce que Dominique Duchamp va faire avec Eric Staal, mais si c'est le cas, ça donne beaucoup plus d'options à Duchamp en termes de jeu de puissance, en termes de comment il veut organiser ses trios. Ça se peut qu'il va complètement les équilibrer pour faire vraiment quatre trios full balancé qui peut rouler un après l'autre, je sais pas, mais c'est certain que ça améliore le Canadien et que c'était une position que Marc Bergevin, il fallait qu'il aille chercher une solution, puis il l'a fait. Alors, bravo à lui, mais c'est sûr que je l'inviterai pas à mon prochain match de poker avec mes amis, là, parce que c'est un gars qui est capable de regarder dans une caméra ou regarder du monde et dire des choses qui sont pas à 100% vraies, disons.
Non, c'est une bonne façon de le tourner, ça, c'est bien. Ouais, ben écoute, tu mentionnes, je t'entends dire les noms de Evans, Byron, Lehkonen. Dans le cas d'Evans, c'est vrai qu'il pourrait être retourné à Laval, il ne faut pas oublier non plus qui est capable de jouer à l'aile. Peut-être que si jamais il y a d'autres mouvements de personnel, il peut être un des alliés sur le quatrième trio. Il peut être également le 13e attaquant de l'équipe. C'est un joueur qui ne gagne pas beaucoup d'argent. Puis le fait qu'il soit en mesure de jouer à l'aile aussi, je pense que ça peut être une denrée, une facette intéressante pour à la disposition de Dominique Ducharme. Moi, personnellement, je pense qu'avant de remanier des trios, le Canadien va devoir voir quelle version d'Eric Staal va arriver à Montréal. Parce que cette ouais. année, avec les Sabres, disons-le, ça n'a pas bien été. Ça n'a pas bien été pour grand monde, remarque. C'est un endroit... ce n'est pas un endroit où il fait bon jouer en ce moment non. à Buffalo. Alors, j'imagine, dans une certaine mesure, ça doit connoter un peu le portrait ou le rendement, surtout qu'à la longue, ça devenait certainement lourd et on sera en mesure d'entendre Eric Staal au cours des prochains jours qui va certainement nous donner nous livrer le fond de sa pensée à cet égard-là. Mais je pense que si c'est le Eric Staal qui a joué avec le Wild du Minnesota, là, ça devient particulièrement intéressant. Mais si c'est celui qui a 36 ans, qui ralentit et qui est plus vraiment qui n'est plus du tout un joueur d'impact, à ce moment-là, je pense que le Canadien va peut-être rester avec une combinaison à trois trios principaux puis un quatrième un peu plus en retrait. Là.
Oui, ben en fait, c'est ça. Je sais pas ce qu'il va faire. Puis c'est vrai que je pense qu'une chose qui va être bénéfique à Eric Starr, c'est qu'il jouait 15 minutes et demie par match avec les Sabres. Il ferait pas ça à Montréal, peu importe ce que Dominique Ducharme décide de faire avec lui. Je pense pas qu'il va être à ce niveau-là en termes d'utilisation. Il va probablement ressembler à quelque chose comme Corey Perry. Il a 10 à 12 minutes par match, ce qui devrait favoriser son niveau d'énergie et ses jambes, sa rapidité sur la glace. Et deux choses qui sont certaines, c'est certain qu'Eric Starr, c'est un joueur très intelligent, comme Corey Perry. En fait, les similitudes avec Perry, pas dans leur style de jeu, mais dans les atouts qu'il amène aux Canadiens, j'imagine va être pas mal similaire. Tu sais, Corey Perry il fait une excellente lecture de jeu, il a une intelligence hockey qui est quand même assez élevée. Eric Starr, c'est la même chose, puis le rôle qu'il va jouer à Montréal va être bien différent que celui qu'il jouait à Buffalo ou qu'il voulait qu'il joue à Buffalo, parce qu'on s'entend qu'il ne le jouait pas vraiment. C'était un désastre pour lui. Mais c'est juste parce que Taylor Hall a deux buts dans l'uniforme des Sabres de Buffalo, je suis pas prêt à croire que Taylor Hall, c'est un mauvais joueur. Eric Starr, il a 36 ans. Alors, c'est sûr que c'est possible que ce qu'on a vu à Buffalo représente un déclin naturel en fin de carrière d'un joueur. Mais moi, je crois qu'il y a quand même encore du bon hockey en lui. Puis arriver dans un environnement qui est meilleur que Buffalo, ce qui dit pas grand-chose, parce que je pense que chacun des...
c'est vrai partout.
C'est vrai, c'est un peu vrai partout. Ça va lui faire du bien. Tu sais, c'est un bon environnement. Il connaît des gars comme Perry, Weber, Price, à cause de l'équipe nationale canadienne. Peut-être pas Price, en fait. C'est surtout Perry et Weber. Mais c'est un gars qui a du vécu dans la Ligue nationale. Il a de l'expérience. Il va probablement aider Nick Suzuki et Jesperi Kotkaniemi pas mal. T'sais, eux autres, ils parlent tout le temps du fait que Philippe Dano, c'est un excellent mentor, mais la situation est un peu différente avec Philippe Dano, dans le sens où on va s'entendre, Philippe Dano voyait ces deux gars-là comme étant des gars qui essayaient de lui remplacer. Alors, c'est pas la dynamique n'est pas la même, et j'en doute pas que Philippe Dano, c'est un super bon mentor, puis ça rentre pas en ligne de compte. Mais avec Eric Starr, t'as plus un gars qui est dans une position comme Nate Thompson l'était, mais juste beaucoup plus talentueux, mais un gars qui a pas de raison de se sentir attaqué ou qui doit craindre sa position sur l'équipe ou quoi que ce soit. C'est un gars qui va juste aider. Alors, je pense qu'il y a un bénéfice ici pour les deux jeunes centres canadiens. D'avoir quelqu'un comme Eric Starr pour leur aider à développer leur jeu et apprendre comment jouer cette position-là dans la Ligue nationale de hockey.
Moi, je vois absolument aucun élément négatif dans cette transaction-là. On reconnaît, là, on approche des séries éliminatoires et qu'est-ce qu'on voit chez Eric Starr? Joueur de gros gabarit, expérience, gagnant de la Coupe Stanley. C'est tout à fait en concordance avec les ajouts que Marc Bergevin avait fait avant la saison. Alors, c'est un autre gagnant de la Coupe Stanley qui s'ajoute à l'équipe. Et tu mentionnais le nom de Corey Perry, une autre facette intéressante de Corey Perry, quelque chose que Perry et Starr ont en commun. C'est que c'est deux membres du très select Triple Gold Club, le club triple or qui réunit les rares gagnants aux Jeux olympiques, médaille d'or aux Jeux olympiques, médaille d'or aux championnats du monde et gagnant de la Coupe Stanley. Donc, je pense que quand tu as un parcours de gagnant comme ça, c'est sûr que ça peut venir aider l'équipe. Et au plan offensif, si Starr se retrouve un dernier soubresaut, si on veut, et qui est capable d'avoir un rendement semblable à ce qu'il y avait, au Minnesota l'an dernier, mais ça ajoute aussi des options si jamais, à un moment donné, il y a un ralentissement réel du côté d'un des deux joueurs de centre, des plus jeunes joueurs de centre du Canadien, ou même chez Dano. Mais ça vient tellement donner plus d'options à Dominique Ducharme. Je trouve ça formidable. Est-ce que c'est un spécialiste des mises en jeu? Non. Surtout pas à ce point-ci de sa carrière. Quand on regarde, par exemple, les mises en jeu à 5 contre 5 en zone offensive, il est à 53% cette année. Ça, c'est intéressant. En zone défensive, encore là, 55, parce qu'il ne joue pas vraiment en désavantage numérique, l'ami Eric. Il est davantage autour de 48%. C'est rien d'épouvantable, mais ce n'est pas non plus le gars qui va devenir le spécialiste de mise en jeu qui va ça demeure Philippe Dano au sein de la formation. Mais sauf que si tu décides d'ôter de l'équation, dire on a besoin d'un joueur de centre d'expérience qui va gagner des mises en jeu et que tu essaies de trouver quelqu'un qui va apporter d'autres dimensions, à ce moment-là, je pense que Eric Staal peut s'avérer un meilleur pari et un gars qui peut être plus intéressant sur 200 pieds de patinoire que, par exemple, un gars comme Luke Glendening des Red Wings de Détroit, par exemple.
Ouais, ben ça c'est clair. Là. Puis c'est en fait, si tu me donnais l'option entre les deux, c'est sûr que je choisirais Staal au lieu de Glendening, parce qu'une fois que la mise en jeu est remportée, là, Glendening, il apporte pas grand-chose, là, à part sur le désavantage numérique. Alors, écoute, je comprends que des mises en jeu sont importantes. Ils ont une certaine importance, surtout en certaines situations. T'aimes ça, avoir un gars sur ton banc que tu peux te fier, qui a une meilleure chance de gagner le mise en jeu que de le perdre. Mais ce n'est pas la fin du monde. Et je pense que même Dominique Ducharme lui-même, je pense qu'il reconnaît ça parce que ignore pour l'instant à quel point il mettait l'emphase sur remporter la mise en jeu initiale en prolongation, mais je pense que pendant le match, à 5-5, il est capable de reconnaître que c'est pas quelque chose qui va dicter les joueurs qui va mettre sur la glace souvent. Là. On voit souvent, en fait, c'est drôle, sous Dominique Ducharme, on voit souvent comme Yoel Armia prendre des mises en jeu du côté droite. C'est vraiment quelque chose de gauche-droite, là, mais Eric Staal, effectivement, c'est un gars qui amène plus que ça, qui amène la possibilité de jouer après la mise en jeu puis d'avoir un impact positif sur l'équipe. Une chose que je trouve très intéressante dans l'échange, c'est qu'Eric Staal a été obligé d'approuver l'échange. Il y avait Montréal, était un des 10 équipes sur son clause de non-échange limité. Il me semble, je peux pas le confirmer, mais il me semble qu'il y avait chacun des équipes au Canada sur sa liste parce qu'il ne voulait pas faire la quarantaine de 2 semaines. Là, ça a l'air que Eric Staal fort probablement serait pas obligé de se mettre en quarantaine pendant 2 semaines, mais plutôt 1 semaine à cause de la décision du gouvernement du Canada, même si toute la paperasse qui est nécessaire pour cette décision-là n'a pas arrivé à la Ligue nationale encore, mais il paraît que Eric Staal va avoir juste 1 semaine à attendre avant de jouer pour le Canadien une fois qu'il arrive à Montréal, ce qui ne devrait pas arriver avant samedi. Alors, on part de samedi à samedi si jamais c'est le cas, mais la volonté de vouloir faire ça, de vouloir faire la quarantaine, il va arriver à Montréal en auto et ça montre à quel point il veut être là. Je pense qu'il voit quelque chose. Il voit quelque chose avec le Canadien, une opportunité pour lui de gagner quelque chose ou de jouer en série au moins. Et ça, c'est important. Ça, tu veux quelqu'un qui arrive, un vétéran qui arrive avec ce feeling-là, avec cette impression-là que l'équipe peut être compétitive, puis que lui, il a un rôle à jouer là-dedans, puis est prêt à faire tout ce qu'il a à faire pour effectivement jouer pour le Canadien. Alors, je pense qu'ils vont avoir un joueur motivé. Je pense qu'ils n'aiment pas comment ça s'est passé à Buffalo, comme tous les membres de toute l'organisation des Sabres. Mais lui, c'est un athlète qui est fier. Et je suis certain que, tu sais, il doit savoir qu'il est rendu vers la fin de sa carrière. Là, puis son rendement et sa fiche à Buffalo, c'est sûrement pas quelque chose qu'il aimerait ça regarder dans 15-20 ans quand il regarde sur HockeyDB, puis il regarde toute sa carrière, puis voir ce moins 17 et tout ça, le 3 buts et tout ça qui était à Buffalo. Je suis sûr qu'il aimerait ça effacer ça en quelque sorte avec les Canadiens pendant les 6 prochaines semaines.
L'autre aspect qui est intéressant, c'est que, Marc Bergevin disait « Je ne peux pas faire de transaction, je n'ai pas d'argent ». Et là, il vient de faire une transaction qui lui a coûté 2 choix de repêchage, un choix de 3e ronde et un choix de 5e ronde. Mais il a permis, les Sabres de Buffalo ont décidé de retenir, ont accepté de retenir 50% du salaire de Derek Staal, ce qui rend cette transaction-là possible. Cela étant dit, ça apporte quand même, ça ajoute quand même du nouvel argent au sein de la masse salariale du Canadien. Il y a 1,625 millions du salaire de Staal qui finalement est absorbé par le Canadien. Ça fait en sorte que il va vraisemblablement falloir que Marc Bergevin trouve une façon de larguer du salaire autrement afin de respecter le plafond salarial. Alors là, en date de vendredi après-midi, ça a été indiqué par le Canadien qu'il ne commenterait pas la transaction aujourd'hui. Je ne serais vraiment pas surpris qu'il y ait quelque chose d'autre qui soit sur le feu à l'heure actuelle et qu'on cherche à peut-être se débarrasser d'un contrat puis à faire un petit peu d'espace sous le plafond, là.
Oui, ben en fait, il y a ça, mais il y a aussi le fait que il y a deux choses, en fait. Premièrement, s'il décide de renvoyer Jake Evans à Laval parce qu'il ne jouera pas, s'il ne jouera pas, je suis sûr qu'ils vont faire ça, s'ils ne vont pas le garder comme 13e attaquant, parce qu'ils n'ont pas besoin d'un 13e attaquant avec le Taxi Squad. Puis alors là, ça devient la différence entre Eric Staal et Jake Evans. Au lieu de l'ajout de 1,625 millions, c'est l'ajout de 1,625 millions moins, potentiellement, le 750 000 de Jake Evans. Alors, c'est coupé en moitié. Ça, c'est une chose. L'autre chose, c'est que les Canadiens, ils ont l'option, s'ils en ont besoin, de mettre Ben Chiarot sur la liste des blessés à long terme, temporairement. Ça leur permettrait de je ne peux pas vraiment l'expliquer à full point, mais à ma connaissance, c'est une option pour eux de le faire temporairement pour effectivement respecter le plafond salarial et en même temps permettre à Paul Byron de jouer. Parce qu'en ce moment, Paul Byron est sur le Taxi Squad. Puis c'est pour ça que le plafond salarial, ça marche aujourd'hui. Mais rendu mardi, quand il faut jouer un match, j'ai pu savoir que Paul Byron ne serait pas nécessairement écarté, c'est pas nécessaire qu'il reste sur le Taxi Squad quand ils seront prêts à jouer un match. Il pourrait utiliser la liste des blessés à long terme sur une base très temporaire pour alléger de l'argent pendant un petit bout, pendant qu'il y a du monde en quarantaine et quoi que ce soit. C'est un outil qui est à leur disposition. Si t'as d'autres questions sur la liste de blessés à long terme, je vous invite à demander quelqu'un d'autre que moi, parce que c'est très, très, très compliqué. Ouais. Mais d'un sens, ça leur permet de, s'ils décident de l'utiliser, ça leur permet d'excéder le plafond salarial par un certain montant d'argent. Mais sauf que quand Ben Chiarot revient, il faut que le tout soit en dessous du plafond salarial, encore une fois. Puis une façon de le voir, c'est le plafond salarial, c'est un montant d'argent accumulé sur toute la saison, sur 116 jours de la saison. Et il y a des façons que le Canadien en fait toute la saison, il y a des façons de jouer avec le plafond salarial sur une base quotidienne. Alors, ce qu'ils font à chaque jour impacte le plafond, mais ce qu'il faut avoir, c'est qu'à la fin de la saison, il faut que tu n'as pas dépensé plus que le 88,5 millions. Alors, c'est de cette façon-là que je pense qu'ils vont être capables, temporairement au moins, de rentrer tout ça. Mais ce que tu as dit est complètement vrai. Ça ne me surprendrait pas du tout que Marc Bergevin est en train de parler à ses homologues pour trouver une façon de libérer encore d'autres argent d'ici quelques jours, mais peut-être aujourd'hui. Là. On sait jamais.
Parce que, écoute, je vais te dire, là, Marc Bergevin dit souvent « Je dois veiller au bien de l'équipe à court et à long terme. » Puis quand il dit « à long terme », on entend toujours la même chose, c'est les choix repêchage puis les jeunes joueurs. Là, il a une tonne de choix repêchage. Il en avait 14, il en a maintenant 12. Mais il a quand même, malgré la transaction d'Eric Staal, il lui reste quand même encore deux choix de troisième ronde. Puis il reste encore quand même deux choix de cinquième ronde. Alors, il y a un énorme capital à ce niveau-là. Et je me dis, quand tu regardes la santé ou si tu veilles au bien de ton équipe à long terme, je pense que ce qui est encore plus important à l'heure actuelle dans le climat dans lequel les équipes évoluent à l'heure actuelle, se doter de marge de manœuvre salariale, c'est probablement encore plus important que de dire on va s'assurer d'utiliser tous nos shorts pêchage, puis sinon on va en faire débouler l'année suivante en les échangeant contre des choix de l'année prochaine. Des choix, des espoirs de qualité B, le Canadien en a un char et une barge. Ce qu'il n'a pas, par exemple, c'est de l'espace sous le plafond salarial. Alors, je me dis, que ce soit Paul Byron, à qui il reste encore 2 années de salaire après cette année, que ce soit Arturi Lehkonen, qui va devenir joueur autonome avec compensation, droit à l'arbitrage, et le Canadien va devoir se poser la question après cette année, est-ce qu'on lui soumet une offre qualificative ou on ne peut pas se le permettre? Ou d'autres joueurs, le Canadien, je pense, doit dire, OK, qui sont nos joueurs qui sont sur nos joueurs de la classe moyenne qui sont dont à l'heure actuelle on peut se passer, utiliser des choix repêchage pour convaincre des équipes dès maintenant, pas cet été, pas avant la veille du repêchage, dès maintenant, de pouvoir prendre ces gars-là et de faire en sorte que, non seulement d'ici la date limite des transactions, mais en vue des années prochaines également, tu donnes un petit coussin pour respirer. Et je pense que si le pool de choix repêchage en souffre un peu, ce ne sera pas la fin du monde parce que je pense que le Canadien, en bout de ligne, serait beaucoup plus gagnant de pouvoir garder un peu d'espace sous le plafond salarial. Pas seulement cette année, mais je mentionne les noms de Staal et de Lehkonen et de Byron. C'est des gars qui seraient sur le payroll l'année prochaine aussi. Alors, je pense que si Marc Bergevin est en mesure de faire une transaction pour respecter le plafond salarial qui lui permet de faire ce genre de choses-là en même temps, je pense qu'il va gagner sur deux fronts à la fois.
Oui, effectivement. Puis dans le fond, c'est un peu ça que ça démontre, un peu la transaction d'Eric Staal, c'est que Marc Bergevin n'a pas peur d'utiliser sa banque de choix au repêchage pour améliorer l'équipe. Puis ce que tu viens de décrire serait une amélioration parce que, rendu là maintenant, la chose qui a le plus de valeur dans la Ligue nationale en ce moment, c'est l'espace sous le plafond. Il y a trop d'équipes qui sont coincées contre le plafond. Et c'est un peu ça qui rend l'échange pour Eric Staal vendredi tellement intéressant. C'est le moment de l'année où c'est arrivé. Là. C'est parce que le plus tu t'approchais aux dates limites de transaction le 12 avril, le plus d'équipes il y aura qui seraient capables d'absorber le salaire d'Eric Staal, même à moitié. Ouais. Et alors, en le faisant maintenant, un peu comme il a fait avec Joel Edmondson, tu sais, Marc Bergevin, il est allé, tu sais, il a sauté le fil là, d'une certaine façon, puis il a dit, OK, moi, je suis prêt à y aller tout de suite, on y va. Et encore une fois, je le salue. C'est quelque chose d'agressif, c'est quelque chose de proactif. Et ça a déclenché un peu la saison des échanges dans la Ligue nationale d'une certaine façon, parce que c'est quand même la période du date limite. Là. On n'est pas rendu à la date limite, mais ça arrive dans 3 semaines, moins de 3 semaines. Alors, c'est une bonne chose à juste être proactif sur ce dossier-là, d'aller chercher le joueur que tu veux, payer le prix que tu veux, qui n'était pas trop élevé. Je pense que le choix de 5e ronde, c'est un peu le boni là-dedans. Je pense que la demande était pour le choix de 3e ronde. Et je pense que le 5e ronde, c'est le fait qu'ils vont recevoir ces 2 semaines d'extra avec Eric Staal que tu ne l'aurais pas si tu avais attendu jusqu'à la date limite. Là.
Non, c'est ça. Puis ces 2 semaines d'extra qui sont, qu'il faut le rappeler, là, non seulement ça permet aux Canadiens d'avoir Staal pour plus de matchs, mais il y aura encore plus de matchs que ce qui était initialement prévu parce que dans la situation dans laquelle on se retrouve cette semaine, le Canadien a été forcé à l'inactivité à cause, on le sait, là, de la question de la COVID à l'intérieur du vestiaire. Le joueur qui a testé positif a contracté un variant de la COVID-19 qui a vraiment précipité du côté de la Ligue nationale, la décision d'isoler le Canadien, finalement, des autres équipes, principalement des Oilers d'Edmonton. Mais là, on va... la Ligue va trouver des façons de replacer certains de ces matchs-là. Notre collègue Pierre Lebrun disait qu'il avait entendu que le Canadien pouvait prolonger sa saison jusqu'au 11 mai. Alors, on va peut-être, je ne sais pas combien de matchs il va y avoir après le 8 mai, la date où sa saison régulière était censée terminer, mais ça paraît assez clair qu'il va y avoir donc certains de ces quatre matchs-là qui vont être entassés quelque part dans le calendrier du Canadien. Donc, c'est plus de matchs encore qu'initialement prévu pour lesquels Eric Staal va venir donner un coup de main. Donc, ça va être une bonne chose.
Non seulement ça, mais en fait, je vais juste ajouter parce que dans le fond, je pense que je vais aller dans la même direction que toi. Mais la question que tu demandais, dans le sens où il faudrait créer de l'espace sur le masse salariale, ça vient à point parce que c'est pas nécessairement pour une autre transaction que ça pourrait s'appliquer, mais il y a Cole Caulfield qui a terminé sa saison vendredi. Oui. Puis c'est là où tu allais, non? C'est ça. Je voulais faire le segue, mais c'est ça. Il va voir si jamais il pensait peut-être donner une chance à Cole Caulfield de jouer quelques matchs cette saison, brûler sa première année de contrat comme ils l'ont offert à Jordan Harris. Ça va prendre l'espace sur le plafond salarial. Non seulement ça va prendre l'espace sur le plafond salarial pour absorber les bonnies que Nick Suzuki, Alexander Romanov et Jesperi Kotkaniemi pourraient obtenir cette saison dans leur contrat. Mm-hmm. Ça aussi, c'est un facteur. Mais la saison de Cole Caulfield étant terminée maintenant, là, il y a beaucoup de temps à décider quoi faire avec lui parce que, dans le fond, la seule date qui compte pour lui, c'est le 12 avril. Il faut que le Canadien le signe avant le 12 avril si jamais ils veulent prêter à Laval. Sinon, il n'y aurait pas le droit. Mais c'est ça, ils ont besoin de l'espace pour faire ça. Puis ça va être fascinant à voir qu'est-ce qu'il va faire. Encore une fois, Cole Caulfield a marqué deux buts dans le match. C'était un peu tard dans le match. Le match était un peu réglé, rendu là. Mais ça donne qu'il a quand même marqué 30 buts cette année. Il y a eu une saison incroyable. Et j'aimerais penser que le Canadien serait tenté de lui donner une chance de jouer quelques matchs, voir ce qu'il peut faire, voir s'il peut suivre le rythme d'un match de la Ligue nationale de hockey, s'il peut jouer avec tout le jeu physique qui va se passer autour de lui. Moi, je serais vraiment curieux de le voir, mais là, ce contrat-là est devenu encore plus compliqué à cause de l'arrivée d'Eric Staal aujourd'hui.
C'est un excellent point, ça, absolument. Puis, écoute, c'est excitant quand même, parce que là, du jour au lendemain, si tu te mets à penser que Eric Staal arrive à Montréal, Caulfield pourrait venir, ça change le visage des troisième et quatrième trios du Canadien. Ça donne à la fois l'élément gabarit et expérience, et à la fois petit gabarit et énergie de la jeunesse. Alors, t'as vraiment aux deux extrémités, tu as un apport, une contribution très intéressante qui pourrait venir de ces deux joueurs-là. Évidemment, Cole Caulfield, lui, a commenté après le match. On ne s'attendait pas à ce que le parcours de l'Université du Wisconsin se termine aussi rapidement. Mais si vous voulez, ils avaient un mauvais match dans le corps, manifestement, contre Bemidji State. Cela étant dit, après la rencontre, Cole Caulfield était secoué et a dit « Écoutez, là, parlez-moi pas de Montréal, là. J'ai pas ça en tête du tout. Tout ce que j'ai en tête, c'est la déception de voir ma saison terminée. » Puis on peut le comprendre, sauf que son entraîneur, Tony Granato, lui, je pense qu'il ne se fait pas d'illusions. Le coup de fil du Canadien va arriver bientôt. Et puis, ce sera, tu mentionnais Laval, je pense pas que ça va être Laval. Se garder cette option-là, c'est une bonne chose, surtout dans un contexte salarial, mais dans un contexte aussi de compétition. Je pense que c'est bon d'avoir cette flexibilité-là. Mais le Canadien va l'amener pour qu'il joue à Montréal. Ça, il n'y a aucun doute là-dessus.
Moi, j'ai aucun doute qu'il jouerait au moins un match à Montréal. Ça, c'est certain. Moi, je suis pas tout à fait convaincu que c'est ça qu'il voit. Pour le reste de la saison, il y a beaucoup de choses qui doivent fonctionner pour que ça arrive.
Ce que je veux dire, c'est que c'est pas. Il y en a qui avaient laissé flotter le scénario là, qui signe un contrat avec le Rocket de Laval, ça arrivera pas.
Non, ça allait jamais arriver. Là. Ça, c'est honnêtement, à mon avis, c'était jamais une option pour lui. C'était un contrat de la Ligue nationale ou rien, là. Et puis là, c'est même pas une question de ça, parce que la seule raison qu'il ferait ça, c'est si jamais il était pas capable de s'entendre sur un contrat avant le 12 avril, t'avais cette option-là. Après le 12 avril, si tu voulais absolument qu'il joue à Laval, tu pourrais lui faire signer un contrat de la Ligue américaine, puis il ferait ça. Là, c'est pas du tout nécessaire. Là. Ils ont du temps en masse pour régler ça. Et en plus, les contrats d'entrée dans la Ligue nationale sont quand même assez standards. Là. Il n'y a pas grand-chose à négocier à part les bonnies. Alors, oui. Bon, et je m'attendrai absolument que Cole Caulfield joue au moins un match avec le Canadien d'ici la fin de la saison. Je suis convaincu.
Ah oui, je te dirais. Ouais. Moi, je mettrais... Je gagerais sur le over dans ce cas-là.
Mais donne-moi un chiffre. Là. C'est combien de matchs tu penses qu'il va jouer? Moi, je mettrais ça à 4.
Ouais, c'est ça. J'allais dire 5, là, mais c'est ça.
OK.
Ça.
Bon. Ouais. Alors, 4 et moins, c'est moi qui gagne. 5 et plus, c'est toi qui gagne. C'est beau.
Parfait. Excellent. Je peux même pas te dire on ira prendre une bière parce qu'on n'a pas le droit. Okay. Bon. Alors, écoutez, on a il y a un élément qui a survécu dans notre podcast de ce matin et on est très content de vous le partager aujourd'hui. C'est une entrevue avec André Tourigny. Formidable André Tourigny, très très bon raconteur, un homme, un passionné de hockey qui a été nommé cette semaine entraîneur-chef de nouveau de la formation canadienne au championnat mondial junior. Mais en plus de cela, il va se retrouver entraîneur adjoint au championnat mondial senior. Il va se retrouver en 2022 entraîneur-chef de cette même formation-là et également, la cerise sur le sundae, entraîneur adjoint au sein de l'équipe olympique canadienne. Donc, c'est une grosse commande qui l'attend. Et après la pause, on lui parle de ce nouveau mandat-là. Restez avec.
Looking for an assist with your credit card but can't get a hold of anyone? Luckily, with 24/7 US-based live customer service from Discover, everyone has the option to talk to a real person anytime, day or night. Yep, you heard that right. You can talk to a real human in customer service anytime. Sounds like a real game changer if you ask us. Make the right call and get the service you deserve with Discover. Limitations apply. See terms at discover.com/creditcard.
Bon, ben, bienvenue tout le monde au Sport Athlétique. On est très heureux d'accueillir un invité très spécial, André Tourigny, qui vient d'être nommé entraîneur-chef de l'équipe canadienne junior pour l'année prochaine, mais aussi beaucoup d'autres postes pendant la prochaine année avec Hockey Canada. Merci d'être avec nous et bienvenue, André.
Merci beaucoup, messieurs. Ça me fait plaisir d'être avec vous.
Yes, c'est très le fun. Écoute, André, moi, je voudrais te lancer tout de suite sur un truc. Ça fait plusieurs mois que tu... Que tu es en attente, que tu es forcé de te tourner les pouces à cause de la COVID, puis du fait qu'avec les 67 d'Ottawa, vous ne jouiez pas. Est-ce que l'offre de Hockey Canada se serait présentée et tu l'aurais acceptée de la même manière si tu avais été au milieu d'une saison? Est-ce que c'est l'inactivité finalement qui a mené à cette situation-là?
C'est une bonne question, Marc-Antoine, mais non, je pense que j'aurais accepté d'une manière ou d'une autre dans les circonstances actuelles, dans le sens que avec la collaboration de OSEC des 67 qui me permet là, d'être avec les 67 à long terme. Est-ce que j'aurais pris ce genre de job-là à long terme? Non, je pense pas, dans le sens que ça va être 4 événements absolument exceptionnels. Sauf que ça va être 4 tournois dans l'année, là, mec, ça dure 3 semaines chaque. T'sais, ça va être 12 semaines de hockey. Moi, je suis un coach. J'aime coacher à toutes les semaines. Là, j'aime être en arrière du banc, j'aime l'action avec les joueurs, j'aime corriger, j'aime enseigner, j'aime établir des structures, des valeurs. Cette année, ça va être différent, mais ça va être tellement enrichissant. Ça va être le fun. Mais dire tu vas signer un contrat de 8 ans, tu vas faire ça tous les ans. Non, c'est pas comment que je réagirais.
Non.
Mais en fait, pour moi, ce qui est le plus intéressant là-dedans, c'est l'opportunité d'aller aux Olympiques. J'imagine pour toi, ça doit être quand même assez emballant de savoir que tu vas te retrouver dans cet environnement-là qui est quand même assez particulier.
Exactement. Je pense que t'es c'est bang on. C'est les Olympiques, là, je veux faire attention à comment je le mène, mais tu sais, j'ai jamais pensé que ça pouvait être atteignable pour moi. C'est pas quelque chose là, que tu te lèves le matin. Ouais, moi, je ramasse mon argent, je m'en vais aux Olympiques. C'est pas même bonheur. C'est une opportunité. Il y a combien de candidats vraiment au Canada là, dans la Ligue nationale, là, les coachs de la Ligue nationale qui vont. Combien de candidats qui ont une vraie chance de faire partie de l'équipe d'entraîneurs? C'est un groupe sélect. Puis que moi, j'ai cette chance-là, c'est, les mots me manquent. Je veux pas. Je sais pas à quel mot utiliser pour décrire à quel point que c'est spécial, que c'est incroyable, c'est un honneur. C'est incroyable.
Tu parles d'honneur, mais je pense que dans l'ensemble, c'est un énorme vote de confiance que Hockey Canada te fait, parce que il semble que ce n'est pas à chaque année qu'on voit une annonce où un entraîneur est désigné pour quatre événements successifs. T'sais, ils sont souvent nommés à la pièce, mais là, d'en arriver, puis boum, quatre d'un coup, André Tourigny, c'est notre homme, ou du moins, ça va être un gars de notre équipe. J'ai l'impression qu'il a fallu qu'à quelque part, tu ailles chercher leur estime, leur confiance pour que, en retour, eux autres, ils te témoignent ça et ils te donnent ces opportunités-là. C'est assez incroyable quand même.
C'est de même que je veux le voir. En tout cas, s'il y a une autre façon de le voir, je ne veux pas le savoir. la façon que je le vois, c'est quelqu'un qui a travaillé avec moi. C'est quelqu'un qui me connaît, qui me donne cette opportunité-là. C'est quelqu'un qui a la possibilité d'aller chercher n'importe quel autre entraîneur pour faire ce job-là, n'importe quel autre entraîneur en dehors de la Ligue nationale, ou n'importe, il aurait pu aller chercher un adjoint national, n'importe quoi, puis il connaît ce monde-là, puis c'est un emploi qu'il m'a offert. C'est ils ont créé un job pour moi, c'est ça qui est que j'ai de la misère je me pince, puis j'essaie de regarder si je rêve, dans le sens que c'est vraiment un privilège exceptionnel là, que Scott Salmon, son groupe, là, me font.
En ce sens-là, c'est quand même assez rare, ça n'arrive pas à chaque année, qu'on ramène un entraîneur-chef pour être l'entraîneur de l'équipe canadienne junior. Évidemment, le tournoi de 2021 était un peu, à certains points, une déception. À quel point est-ce que tu penses que... Parce que moi, j'ai toujours pensé ça, que ça doit être difficile d'avoir une entraîneur différente à chaque année qui a ses propres systèmes, ses propres valeurs, ses propres philosophies. À quel point penses-tu que la continuité des choses va être profitable pour le Canada dans le prochain tournoi?
C'est deux volets à ta question. La première des choses, c'est... on regarde la façon que le tournoi s'est déroulé cette année. On regarde les outils qu'on avait, dans le sens que la majorité de nos joueurs n'avaient pas eu de saison. Même nos joueurs de la Ligue d'hockey junior du Québec étaient arrêtés depuis très longtemps. Les autres pays jouaient. Les autres pays étaient en full strike, étaient en saison. Même ils jouaient avec les pros, donc dans bien d'autres pays. Donc, les outils qu'on avait, la performance qu'on a eue, quand pour le monde qui n'a pas suivi le championnat du monde, c'est une chose. Ceux qui l'ont suivi, qui ont regardé les gains, la performance de notre équipe, on a dominé dans toutes les catégories à peu près imaginables au niveau des stats avancées, toutes ces, la possession, n'importe quoi, ça le tout. On a vraiment eu une performance extraordinaire. La seule chose qu'on regarde et qu'on dit « OK, ça, c'était plus tough », c'est les deux matchs en deux jours qu'on ne pouvait pas rien, ou en tout cas, j'ai pas les connaissances de dire qu'est-ce qu'on aurait pu faire, dans le sens que, écoute, quand tu es dans une saison, tu roules, tu joues des deux en deux, tu joues des trois en trois dans le junior, là, tu es habitué à ça, tu arrives au championnat mondial junior, OK, ça fait partie d'une saison de hockey. Nous autres, nos joueurs n'avaient pas joué. C'était difficile pour eux autres de jouer un deux matchs en deux jours, de maintenir l'intensité, le focus, etc. Qu'est-ce qu'on aurait pu faire pour mieux les préparer? Ben, je n'ai pas les connaissances dans le sens que le seul moyen, c'est ta game shape, c'est durant une saison, à un moment donné, tu roules, puis tu viens habitué à ça. Donc, là, comment qu'on aurait pu faire? Ça, c'est un. La deuxième des choses, c'est, tu sais, j'ai entendu justement des gens au Canada parler de l'événement cette année. Tu sais, on a tous le même sentiment. On est fiers de la performance qu'on a eue. On est fiers de la façon qu'on a joué. On est fiers de tout, sauf la couleur de la médaille. Tu sais, j'ai entendu des gens au Canada dire, tu sais, j'ai pas de photo dans ma maison d'équipe qui ont gagné la médaille d'argent. sauf que celle-là, je vais en avoir une photo de cette équipe-là. Puis ça m'a touché beaucoup d'entendre ça, puis d'entendre dire que c'est la médaille d'argent que je suis le plus fier dans ma carrière. Des choses de même à des gens qui ont été alentour de l'équipe. Ça montre qu'il y a une appréciation pour la façon que nos joueurs ont joué, de la façon que les gars se sont dédiés, de la façon qu'on a performé. Mm-hmm. Puis au Canada, il faut que tu gagnes la médaille d'or. C'est pas, on est tous conscients de ça. Puis quand on signe pour cette équipe-là, on se cache pas puis on pense pas que ouais, mais là, cette année, ça va être différent. Non, non, c'est ça le job, puis c'est ça qui nous excite, c'est ça qu'on aime. Puis quand tu coaches, tu veux ces défis-là. Donc, c'est j'essaie pas de dire ouais, mais là, c'était bon pareil. Non, non. Le job, c'est de gagner, puis on n'a pas gagné. Sauf que quand on regarde, il y a beaucoup de choses qu'on peut être très fiers de la façon dont on l'a fait.
Est-ce que tu vas aborder ces différents tournois-là? Parce que là, on rappelle aux gens, tu retournes comme entraîneur-chef au Mondial Junior. Tu deviens entraîneur adjoint sur l'équipe olympique canadienne. Également, tu vas coacher au sein de l'équipe canadienne pour le championnat mondial senior, le championnat mondial régulier. Et puis également, quelle est la quatrième? Ça m'échappe.
Entraîneur-chef. Avec le championnat mondial des hommes en 2022.
Voilà, exact. Alors, est-ce que tu vas aborder ces tournois-là différemment? C'est-à-dire que, est-ce qu'il y a une approche commune dans ta façon de travailler où chacun de ces événements-là va vraiment apporter des caractéristiques individuelles particulières?
La réponse est oui dans les deux, dans le sens que il va y avoir une similitude dans les approches. Ça va être complètement différent. Je ne sais pas comment cette réponse-là peut faire du sens, mais le point, c'est que le plan, les valeurs, la structure de la cédule, etc., etc., ça, il va y avoir beaucoup de points de similitude. Il y a des ajustements selon la philosophie de chaque tournoi. Il y a des exemples, les championnats du monde, c'est plus long. Donc, tu as moins long de camp, tu as moins de temps pour te préparer au tournoi. Donc, il va y avoir des tournois durant le tournoi, il va y avoir des pratiques durant le tournoi, des choses comme ça. Il va y avoir beaucoup de progression durant le tournoi. Tandis que championnat mondial junior, tu as beaucoup de préparation avant le tournoi. Beaucoup de pratiques, des choses comme ça. Il y a une saison d'évaluation. Il y a des événements, la Russian Series, la CIBC Series, qui amènent au camp d'équipe Canada. Donc, c'est des événements qui vont être différents, mais dans l'approche, c'est totalement différent. Un joueur professionnel, un joueur junior, c'est différent. Les valeurs sont pas différentes dans le sens que André Tourigny, c'est André Tourigny. Là, j'aime agacer les joueurs, j'aime avoir du fun, j'aime créer un climat qui est loose quand c'est le temps d'avoir du fun, quand on est dans la chambre, ces choses-là. Mais quand on est à la tâche, une séance vidéo, une pratique, une game, là, on est sur la job. C'est plus le temps de... Pas le temps de niaiser, là. C'est faut être sérieux. Donc, j'aime être sans avoir du fun, mais être 100% à la tâche quand c'est le temps. Puis ça, mon approche sera pas différente parce que ça, c'est qui que je suis. Je peux pas dire, OK, là, je vais être Mike Babcock de ce tournoi-là, puis je vais être Kenneth Cook le tournoi d'après. Non, non, je vais être André Tourigny, puis c'est comme ça, là.
Oui, ben c'est en fait c'est la seule façon de le faire. Là. J'espère que tu ne seras pas quelqu'un d'autre. Puis en fait, t'as raison de dire que tu as connu tout un tournoi dans des circonstances qui sont. C'était quand même pas mal difficile avec la bulle et les quarantaines forcées à un moment donné et tout ça. Je regarde l'équipe junior de l'année passée, puis il n'y avait pas beaucoup de 2002 nécessairement sur l'équipe, mais un d'entre eux, c'est Caden Gooley, que pour nos auditeurs, ouais. c'est évidemment quelqu'un qui a beaucoup d'intérêt parmi nos auditeurs. On a eu la chance de le voir jouer avec le Rocket de Laval. Il avait pas l'air d'un gars qui était de l'âge junior, à mon avis. Je l'ai vu jouer un couple de matchs, puis il avait l'air d'être un professionnel normal comme les autres joueurs de la Ligue américaine. À tes yeux, je sais que tu as parlé quand même, tu étais quand même élogieux de sa part pendant le tournoi, mais avec un peu de recul... qu'est-ce que tu retiens de ce jeune homme-là, puis pourquoi penses-tu que... Parce que je sais que tu penses qu'il y a un bel avenir à venir avec le Canadien, mais c'est pourquoi exactement? Qu'est-ce qui le rend un peu unique dans ce sens-là, à tes yeux?
C'est une bonne question. Ce que j'aime de Gould, c'est un old school player. C'est un joueur qui est mine, qui est très bon pour se défendre. Il a un instinct, une bonne lecture de jeu défensivement. Mais il a les caractéristiques de la game d'aujourd'hui. C'est un patineur exceptionnel. C'est un gars qui il fait des bonnes sorties de zone. Il a une bonne transition. Il est capable de passer le puck. C'est pas un gars qui va mettre le puck dans la vitre tout le temps. C'est un gars capable de faire des jeux. C'est pas un gars offensif. Il y a une différence entre faire des jeux, être capable de faire des jeux, et être un défenseur offensif. Tu peux avoir il est bon en sortie de zone, il est bon en transition. C'est pas nécessairement un gars en zone offensive qui va être un carrière. C'est pas nécessairement un gars qui va jouer en power play. Mais c'est un gars qui, un peu comme Edmundston, à sa manière, il est un bon chain connector en attaque. Il fait des bonnes passes, etc. Mm-hmm. Goulet, il est supérieur à ça. Mais c'est quand même un gars qui est offensivement, qui est capable d'être un bon contributeur. Tu le mets avec des bons joueurs, c'est pas un gars qui va briser le jeu. Là. C'est un gars qui va être capable d'être un bon chain connector puis avoir une bonne exécution. Puis c'est un professionnel. Tantôt, tu as mentionné, tu l'as vu jouer à Laval, il avait pas de l'air d'un gars junior. C'est exactement ça. C'est un gars qui est constant, il est à son affaire, il est facile pour un entraîneur à mettre sa glace, à aimer, puis à se fier dessus.
Quand un défenseur est nommé sur une équipe nationale junior à 18 ans, la réalité quand de revenir à 19, en quoi c'est différent d'un attaquant? On voit peut-être, corrige-moi si je me trompe, mais j'ai l'impression qu'on voit un peu plus des attaquants qui peuvent être nommés à 18 ans puis qui reviennent à 19 que des défenseurs où là, à la ligne bleue, ça va être davantage des 19 ans. Mais le défi, revenir avec les responsabilités additionnelles quand tu as 19 ans, ça pourrait ressembler à quoi si jamais Goulet devait être nommé sur cette équipe-là une autre fois?
Kieran Goulet, il est ce qu'il est. Il jouera pas sur le power play. Là. Il pourrait revenir à 22 si tu veux. Il jouera pas sur le power play non plus. C'est pas ça qui est Kieran Goulet. Ce qu'il y a un Goulet, ce qu'il va être, par contre, c'est qu'il va être le gars qui va jouer contre les meilleurs. C'est qu'il va être le gars qui va être dominant contre les meilleurs. Qui va être une présence que l'adversaire va dire ah non, pas lui encore. Ça va être une arme incroyable. C'est une arme qui est effacée. Mais c'est un arme qui est incroyable. Puis en même temps, il a une présence au niveau de son leadership, de la façon qu'il fait les choses à tous les jours, son intensité, les pratiques, son désir de vaincre, qui va avoir un impact majeur dans l'équipe. Il va être un gros leader, puis il va être un gars qui va. C'est un petit peu tous les gars qui vont être de retour. Là, on a tout un chip sur notre épaule, là, un chip our shoulder, because on est fiers de notre performance. Mais en même temps, on est déçus, frustrés du résultat. Là, je voulais aller au championnat mondial junior. Il n'y avait pas de question dans ma tête là, que quand ils m'ont offert le job, pour moi, c'était sûr que je voulais y aller. Là, on veut prouver et on veut gagner la médaille d'or.
Oui, ben c'est ça. C'est un peu ça que là, tu pars avec une certaine longueur d'avance avec les gars qui reviennent. Toi, tu es déjà en place, tu connais un peu mieux qu'est-ce qu'il faut travailler peut-être ou qu'est-ce qu'il faut faire de différent, mais pas grand-chose, effectivement, à cause du fait que l'équipe a joué très bien. Mais c'est un peu similaire aux situations que Dominique Ducharme a connues quand il était avec l'équipe Canada Junior. Il y avait plusieurs opportunités d'y aller. Toi, ta relation avec Dominique, c'est quoi exactement? Je sais que tu as coaché contre lui plusieurs fois pendant des années, là, mais c'est quoi? À quel point as-tu une connaissance avec lui? C'est quoi ta relation avec lui?
J'ai une bonne connexion avec Dom. On a coaché un contre l'autre. Quand Dom il est parti d'Halifax, c'est moi qui suis allé à Halifax. J'avais parlé beaucoup à ce moment-là. La journée qu'il était nommé avec le Canadien, on s'est parlé. Il m'a texté aussi cette semaine. On a une bonne relation. Je dis pas qu'on est des grands chums et qu'on va en vacances ensemble, mais on a une bonne relation. Puis je me souviens d'avoir une discussion avec lui, justement. Puis c'était... C'est sûr que c'est un facteur. T'sais, si Dom il avait pas retourné puis gagné, c'est sûr que je ne sais pas comment j'aurais vu la situation, mais là, c'est sûr que ça m'a passé par la tête. Dis, regarde, Dom il était, il est retourné, il avait son plan clair, puis ça, je me souviens à cette époque-là, c'était clair dans sa tête que la deuxième fois serait la bonne, puis je pense de la même façon, c'est sûr.
Harpin vient d'amener Dominique Ducharme sur le terrain. Je voudrais Tout à l'heure, je voudrais revenir à ta situation puis à au tournoi que tu vas coacher. Mais puisqu'il mentionne le nom de Dominique, je voulais te consulter, vu que tu as une bonne perspective de coach. Depuis son arrivée, il essaie d'établir un processus en mettant de l'avant des choses auxquelles il croit. Puis il y a un projet à vendre à ses joueurs.
Ouais.
Les résultats en termes de victoire défaite ne paraissent pas encore. Est-ce que c'est plus difficile quand tu es un nouveau coach d'arriver, de vouloir justement convaincre tes gars que ton processus, c'est le bon à suivre? Et est-ce que c'est plus difficile de l'appliquer quand les résultats ne viennent pas vite, puis que dans le fond, la raison même pour laquelle tu as été placé dans cette situation-là, c'est pour faire en sorte que les résultats puissent venir?
Tu sais, les journalistes, vous prenez les stats, vous les virez comme vous voulez. On peut-tu faire la même affaire quand on est coach, tout d'autre?
Ben oui, vas-y fort! Absolument!
C'est qui l'équipe qui a le moins de défaites en temps réglementaire dans 10-15 derniers games dans la Ligue nationale?
Ben écoute, dans la division, depuis le début de la saison, 5. C'est le Canadien. Ouais.
Et voilà. Dom Ducharme, là, dans ses 10 dernières, je pense qu'il a perdu 2 games. Il y a 2 games qui n'ont pas ramassé de points. Les autres, ils ont perdu des...
Ouais,
le monde fait un big deal. Ils ont perdu des 3 contre 3. OK, vous allez me dire que c'est du hockey, ça? Vous allez me dire que...
Non, je ne dirais jamais ça. Non. Le 3 contre 3, c'est le hockey.
C'est un spectacle. Ça fait partie de la game. Il faut que tu aies gagné. Je suis convaincu. Sauf que moi, si demain matin, je suis au bureau, là, je m'appelle Dom Ducharme. Là, je me dis, hey, mon équipe, ça va pas bien. Hein? On perd le 3 contre 3. Qu'est-ce qu'il faut changer? Mais non, c'est pas de même que je pense. Là. Je me dis, hey, on est-tu dur à battre, nous autres? Nous autres, c'est top, je joue contre nous autres. Bien des soirs qu'on domine dans les shots. Puis, on n'est pas capable d'aller chercher le goal de faire la différence. Puis, on perd à plusieurs, en overtime, whatever. Le monde nous dit ça va pas bien. Dans le fond, ça va-tu si mal que ça? On a 42 shots contre, mettons, 31. On fait 4 games qu'on n'a pas perdu en temps réglementaire, mais ça va pas bien. Mm-hmm. Tu comprends la réaction des partisans. On est émotifs, on veut gagner. Sauf que moi, comme coach, là, je me dis, OK, c'est quoi qu'il faut changer tant que ça? Il ne faut pas changer tant que ça. Là. On est l'équipe la plus dure à battre en temps réglementaire, dans la division, présentement, dans les 10, 12, 15 derniers games. Bon, OK, il faut continuer à être meilleur. On n'est pas rendu. On veut gagner. Je suis tout d'accord avec ça. Sauf que, c'est pas on efface, on recommence, puis là, ça ne marche pas par la tête de la manière que ça. Parce qu'on est 0-9 en overtime. On est 0-9 à 3 contre 3. OK, on n'est pas bon 3 contre 3. OK, next question. À 5 contre 5, on n'est pas pire, par exemple. Fait que, comme entraîneur, il faut rationaliser et dire. Parce que, faut que tu fasses un plan comme entraîneur. Tu t'assis là, puis tu dis, OK, c'est quoi qui ne marche pas dans le plan? C'est quoi qu'il faut changer? Fait que là, il faut que tu regardes comment mon équipe elle joue, c'est quoi les chances de marquer, etc. Tu regardes les stats avancées, tu regardes tout ça. Puis là, tu dis, OK, ouais. Faut pas que j'essaye de fixer ce qui va bien. Faut que j'essaye de fixer ce qui va mal, ce qui va moins bien. Comment on va pouvoir aller chercher le goal qui fait la différence? Ça, c'est la première partie de ma réponse. La deuxième partie de ma réponse, c'est. Ça aurait été difficile pour Dom Ducharme quand il est arrivé en milieu de saison s'il avait été dans le même moule que l'entraîneur qui était là avant. Claude Julien, c'est un bon entraîneur. Les joueurs ont travaillé fort pour lui, etc., etc. Sauf que, comme tout entraîneur, à un moment donné, les gars, il y a des choses qu'ils aiment moins. Ça serait n'importe quel coach. Ça serait vous autres qui coacherez, là. Vous auriez une philosophie, une façon de jouer offensivement, défensivement. Il y a des choses qu'il y a des joueurs qui aimeraient moins. Ils aimeraient mieux jouer d'une manière différente, etc., etc. Quand il y a un changement d'entraîneur et il amène des choses nouvelles, ça crée, s'il y a une philosophie, une chose, une manière de faire différente, ça crée un vent très cher. Puis là, les gars, ça lui donne l'opportunité de justement être refresh puis d'embarquer là-dedans. Puis moi, c'est ce que je sens avec le Canadien. Je regarde la façon qu'ils essaient de sortir la rondelle de leur zone. Ils veulent faire plus de support, plus de jeu, de rapprocher, des passes dans le milieu, des choses de même. Puis même chose dans la zone offensive. Les défenseurs sont beaucoup plus impliqués à créer du mouvement, etc. Je vois la différence, puis je vois que les joueurs ils aiment ça, puis ils ont du fun. Maintenant, ça serait bon de gagner les matchs avant que la overtime commence, mais en même temps, pour réaliser qu'ils sont durs à battre. Là. Ils sont durs à battre à 5 contre 5. Ils sont durs à battre avant que l'overtime commence.
Oui, effectivement. C'est ça le débat, en fait, parce que tu peux le regarder des deux bords, puis effectivement, ce que tu as dit, tu peux prendre les journalistes, prendre les statistiques comme ils veulent, mais il y a un certain nombre de victoires qu'il faut compter ou les nombres de matchs sans points. Mais je suis entièrement d'accord qu'effectivement, il y a beaucoup plus de bonnes choses qui se passent avec l'équipe que de mauvaises choses. Mais quand l'annonce a été faite que tu allais chez Hockey Canada, puis je pensais un peu au cheminement, Dominique, à ton cheminement, à toi, notre collègue Sunaya Sapurji avait fait un super beau profil de toi juste avant le tournoi.
Ouais.
À quel point, c'est quoi le cheminement que tu aimerais d'ici? Est-ce que tu aimerais aboutir un jour, revenir dans la Ligue nationale, mais comme entraîneur-chef? Est-ce que c'est ça le but ultime? Et comment est-ce que ce poste-là avec Hockey Canada va t'aider dans ce cheminement-là?
Tu sais, c'est une question que j'ai eue une couple de fois. Puis, tu sais, ma réponse est plate, mais tu sais, je suis pas un gars qui vit comme ça. Je suis pas un gars qui est. Je sais pas, moi, être où dans 5 ans? Peut-être être mort. J'ai aucune idée. Je ne sais pas où ce que je vais. Ce que je veux, c'est. Je ne dis pas ça d'une façon arrogante, là. Ce que je veux être le meilleur. Je veux être le meilleur, au moins la meilleure version de moi-même. Je veux me dépasser. J'adore apprendre. J'adore. Quand que j'apprends quelque chose de nouveau et j'ajuste quelque chose dans mon coaching, là, ça me donne de l'énergie. Je suis content. Je suis comme un enfant d'un magasin de bonbons. Là. Je suis excité. Puis, hey, on a fait quelque chose de nouveau. C'est bon. Les gars aiment ça. On avance. Ça m'allume. Ça fait 20. Tu sais, je suis encore jeune. Tu sais, dans l'Union nationale, présentement, il n'y a rien que 4 entraîneurs qui sont plus jeunes que moi. Là. Tu sais, j'ai 46 ans. J'ai la chance que je coach. Ça fait très, très longtemps. Ça fait très, très longtemps que je dis aux joueurs de focusser sur ce qu'ils peuvent contrôler, de rester dans le présent, etc. Puis je me suis à preacher ça à nos joueurs. Je me suis comme brainwashé. Tu sais, c'est de même que je fais ça. Là. C'est de même que je vis ma vie. C'est qu'est-ce que je peux faire aujourd'hui pour être la meilleure option pour les 67, pour être la meilleure option pour le Hockey Canada, pour faire avancer les choses. T'sais, hier, je travaillais dans mes choses pour justement essayer d'être bien préparé, etc. etc. C'est ça qui m'allume, c'est ça que je fais. J'ai la chance de faire un métier qui me passionne et que j'aime faire tous les jours. Je fais souvent des farces, mais quand je vais à la pêche au mois de juin, moi, je parle d'hockey. Tu m'as pas, on va aller à la pêche, mais on ne parlera pas d'hockey. Il ouais. Va y aller tout seul à la pêche. Ouais. On ne parlera toujours bien pas là, du Food Channel. Écoute, j'aime ça. C'est comme ça. Fait que, j'ai cette chance-là. Je ne sais pas où est-ce que je vais être dans 2 ans, mais je sais une affaire, c'est que cette année, je vais apprendre une tonne. Je vais être avec les meilleurs coachs au monde, ou en tout cas au pays. On va avoir des discussions, on va avoir du fun. Je vais être avec les meilleurs GM, avec les équipes nationales qui vont parler d'évaluation de joueurs. On va parler de comment ils rendent les équipes dans la Ligue nationale. On va échanger sur un paquet de sujets. Je vais apprendre une tonne. T'sais, à toutes les fois que je vois avec l'équipe Canada Junior, je reviens. Là, puis la première journée que je reviens, je m'en vais tout le temps au bureau avec notre staff. Puis là, on parle de toutes les choses que j'ai appris, puis que j'aimerais qu'on ajoute, j'aimerais qu'on essaye, etc. Puis, c'est énergisant, puis j'apprends une tonne d'affaires, puis etc. Là, je vais avoir la chance de faire ça pendant 1 an au complet. Normalement, ça te prend 10 ans d'avoir la chance d'avoir 4 événements comme ça. Là, moi, je vais pouvoir le faire pendant 1 an. Ça va être un cours de développement professionnel accéléré pendant 1 an. Je vais revenir avec des tonnes d'idées. Puis je vais avoir hâte d'appliquer ça dans notre équipe. Donc, c'est de même que je vois ça. Là, ça va m'amener où? Je ne sais pas. Je sais pas. Je suis heureux avec les 67. Je suis heureux à Ottawa. Ça va être le fun. Va-t-il avoir une autre opportunité? C'est pas moi qui va décider. T'sais. Moi, je dis souvent ça. Je décide pas d'être le head coach des New York Rangers. Hein. C'est pas moi qui va décider ça. Hein. C'est quelqu'un qui va dire, hey, sais-tu quoi? J'aimerais ça que tu sois mon coach. Puis là, ça va être à moi. La seule décision à avoir, ça va être d'accepter ou non. Mais, tu sais, si c'était moi qui déciderais, là, ça serait bien différent. Mais là, c'est pas ça que je contrôle. Fait que moi, ma job, c'est de faire tout ce que je peux faire, tout ce que je peux faire, le mieux que je peux faire à tous les jours. Puis ça, espérant qu'à un moment donné, ça va inspirer quelqu'un, puis quelqu'un qui va dire, hey, moi, je veux que ce gars-là travaille avec nous autres. Comme c'est arrivé avec Hockey Canada. Puis. Où est-ce que ça va m'amener dans 5 ans? Je sais pas. Le plus haut possible ou une place que je vais être heureux. ça, c'est le plus important.
En tout cas, le fait que tu sois nommé déjà au sein de l'équipe olympique, c'est clair que ça va être un endroit qui va te rendre heureux. J'ai aucun doute.
Là, tout un workshop de coaching là, aux Olympiques.
Ouais. Ouais, c'est incroyable.
Oh, ouais. Mais d'ailleurs, à cet effet-là, là, toi, tu es nommé. T'es nommé comme adjoint. L'entraîneur-chef n'est pas encore nommé. Est-ce qu'il y a quelque chose dans la présence ou l'absence des joueurs de la Ligue nationale aux Jeux olympiques qui entrent en ligne de compte sur qui pourrait être l'entraîneur-chef de cette équipe-là et la façon dont le coaching staff pourrait être organisé à part toi?
C'est une bonne question. Tu vois, on n'a pas parlé de ça, Marc-Antoine. Honnêtement, là, tu sais, moi, j'ai confiance aux gens qui m'ont engagé. Puis, on n'a pas parlé de tous les scénarios, les Olympiques, qui va être là, il va-t-il en avoir une rotation. On n'a pas parlé de tout ça. Donc, j'imagine que tout va aller pour le mieux. Puis, on va être prêt pour ça. Puis, sinon, on va avoir la flexibilité pour s'ajuster. Mais non, on n'a pas parlé de si ça n'arrivait pas, ce serait quoi le plan. Non.
Contrôler ce qu'on peut contrôler, hein?
C'est ça, là. C'est un bon point, puis c'est pas hors de. Je dis pas que c'est sûr que ça arrivera pas, ça se peut que ça arrive, mais écoute, à ce moment-là, là, ça me donne rien de focusser sur les affaires que je sais pas, puis que toutes ces choses-là. Je pense qu'il y a une opportunité qui est là, puis c'est une opportunité qui est incroyable pour moi, mon développement personnel, puis d'avoir la chance de représenter ton pays, c'est un honneur toutes les fois, puis de le faire sur un stage encore plus gros. Ça va être incroyable.
Oui, effectivement. Puis ça commence quand même assez bientôt. Là. C'est, si je ne me trompe pas, le 21 mai, c'est le championnat du monde senior. Alors, il n'y a pas beaucoup de temps. Il faut que tu te mets au travail tout de suite, plus ou moins. Est-ce que tu vas aider un peu le DG de l'équipe à regarder des joueurs ou comment est-ce que tu vas préparer pour ce tournoi-là dans les prochaines semaines?
Exact.
Prochaines...
Je fais partie de l'équipe de management là, pour justement faire du scouting puis regarder la composition de l'équipe puis les rôles, puis etc. etc. Oui, ça fait partie de mes tâches.
Ah, cool.
Ah, excellent. Ouais. Écoute, merci énormément, André, d'être venu au Super Athlétique. C'est toujours tellement agréable de te parler. C'est rafraîchissant. Puis, des fois, là, il y a des questions qu'on pose, on ne sait pas de quelle manière tu vas les prendre, mais c'est toujours. Les réponses sont toujours meilleures que les questions. Puis je veux dire, dans le hockey, c'est pas toujours vrai. Alors, c'est pour ça que c'est toujours le fun de te parler, André.
Vous êtes bien fin, messieurs. C'était bien le fun. Merci beaucoup de m'avoir sur votre show.
All right. Excellent. Merci, André. Porte-toi bien. Bonne fin de journée.
Merci, messieurs. Bye-bye.
Bye. C'est André Tourigny, je trouve que c'est un des personnages les plus fascinants dans le hockey. On vient de l'entendre, exubérance, connaissance, confiance en lui aussi. Puis c'est une vedette montante. Ça me frappe un peu qu'ils disent qu'il a 46 ans parce que il fait un peu partie des meubles en même temps. Il y a une longue feuille de route. C'est intéressant que Hockey Canada se serve de son expérience justement, mais j'ai l'impression que on n'a pas fini d'entendre parler de ce gars-là.
Non, effectivement, tu sais, je pense qu'il était un peu humble dans sa réponse concernant son avenir. Je pense que c'est clair que ce gars-là, il a un avenir dans la Ligue nationale comme entraîneur-chef, pas comme adjoint, comme il l'était auparavant avec Colorado, puis
Ottawa aussi. Ouais.
Et Ottawa aussi. Mais c'est clair qu'il est rendu à une nouvelle étape. Dans sa carrière, sa réputation est bonne, ses joueurs l'aiment, puis il a comme un cerveau de hockey, puis c'est clair qu'il y a une passion pour le hockey aussi, là. En tout cas, tu demandes une question sur Dominique Duchamp, puis il commence à comme décrire le système et tous les ajustements qu'il a apportés. C'est quand même pas quelqu'un qui est juste capable de regarder un match de hockey juste pour le fun de le regarder. Là. C'est un coach inné, c'est dans lui.
Alors, je pense que quand il va à la pêche, dans sa chaloupe, il apporte un tableau avec un crayon. Tu sais.
Ouais, c'est ça. Mais je m'attends à le voir dans la Ligue nationale très bientôt.
Ah, oui.
Ça ne me surprendrait pas là, si dans les prochaines années, lui, il dit qu'il ne sait pas ce qu'il va faire en 5 ans. Moi, je gagerais que dans 5 ans, il va être un entraîneur quelque part dans la Ligue nationale.
Oui, absolument. Puis sais-tu quoi, ça illustre, je pense qu'on en a parlé sur le show il y a quelques semaines, mais J'avais mentionné le fait que on parle beaucoup du fait que le Canadien a absolument besoin d'un entraîneur-chef francophone. Il y a des gens qui ça les chicote, surtout du côté anglophone, ça les chicote que le Canadien limite ses options en se tournant seulement vers un entraîneur francophone. Puis ce que j'avais dit au moment de la nomination de Dominique Ducharme, c'est que pour la première fois depuis très, très longtemps, le bassin de bons entraîneurs francophones est intéressant. Puis il y a plusieurs options. Tu n'as pas besoin de retourner vers les entraîneurs qui ont déjà coaché le Canadien puis de toujours recycler le même air. Et je pense qu'André Tourigny reflète tout à fait ce genre d'opportunité-là, ce genre d'options-là qui va être à la disposition du Canadien parce que c'est justement, je pense qu'il est à la tête d'un groupe ou il représente bien cette nouvelle vague d'entraîneurs québécois. Là.
Ben, une vague qui inclut Dominique Ducharme, puis ça, j'ai trouvé sa réponse intéressante quand il parlait de Dominique Ducharme, puis il défendait Dominique Ducharme d'une certaine manière, parce que j'imagine pour un gars comme André Tourigny, il doit voir Dominique Ducharme et l'opportunité qu'il a, puis ce qu'il est en train de faire dans la Ligue nationale, il doit se voir lui-même un peu dans le même pot, tu sais, voir lui-même la possibilité qui perce dans la Ligue nationale de la même façon que Dominique Ducharme l'a fait. Et c'est intéressant de l'entendre sur les contrastes avec Claude Julien. Mais c'est ça. C'est encore une fois, c'est définitivement quelqu'un qui est sur le radar pour la Ligue nationale. Une fois que, à la fin de cette saison-là, je suis sûr qu'il y a des entraîneurs qui vont perdre leur poste. Puis ça ne me surprendrait pas du tout si le nom de André Tourigny commençait à circuler comme un des candidats à les remplacer.
Oui, absolument. Ben écoute, un stage, devenir un peu la tête de proue de Hockey Canada, c'est toujours une excellente carte de visite. Fait que ça va certainement servir. Ben écoutez, merci tout le monde d'avoir été à l'écoute du Super Athlétique. Encore cette semaine, c'est toujours un plaisir d'enregistrer cette balado-là pour vous. Alors, n'hésitez pas. On vous mentionnait en début d'émission. Si vous voulez vous abonner au Super Athlétique, faites-le en allant au athlétique.com. En fait, pas vous abonner au Super Athlétique, vous l'êtes déjà. Vous vous dites déjà. Ce que je voulais dire, c'est si vous voulez vous abonner à notre application, et de même qu'au site web de Athlétique, vous pouvez le faire en profitant donc d'un rabais qui vous permet de vous abonner à chaque mois pour 1,25$ par mois en allant au athlétique.com/supportathlétique. Alors, merci tout le monde, merci Arpin, puis on se retrouve la semaine prochaine.
Bye tout le monde.